Journal.com.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Ce mois d'août marque le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, appelée aussi la Grande Guerre. Au-delà de ses combats acharnés, de ses millions de morts, son impact sur le monde de l'époque a été considérable et n'a pas épargné le Moyen-Orient. C'est pourquoi Orient Hebdo a choisi de revenir sur 4 épisodes de cette guerre qui se sont déroulés dans la région ou sa proche périphérie. Après la bataille des Dardanelles, la révolte arabe, les campagnes d'Égypte, de Palestine et de Mésopotamie, notre dernier volet se penche sur le soulèvement des régions d'Asie centrale, récit assuré par l'historienne Chloé Drieux. Autre série, celle que nous consacrons avec Alexandre Bucianti aux communautés étrangères d'Égypte. Aujourd'hui, la communauté des Italiens, à laquelle appartient bien évidemment Alexandre. Enfin, Michel Paul à Jérusalem nous parlera transport ferroviaire et l'on suivra avec lui la ligne Tel Aviv-Jérusalem.
Orient Hebdo sur RFI.
Pour l'essentiel, la guerre de 14-18 s'est déroulée en Europe. Mais elle a largement débordé sur sa partie sud et sud-est. Plusieurs campagnes militaires se sont déroulées au Moyen-Orient entre 1915 et 1918. La bataille des Dardanelles, mais aussi les campagnes d'Égypte, de Palestine et de Mésopotamie. Sans oublier la révolte arabe de 1916. Et justement, c'est d'une autre révolte dont nous parlons aujourd'hui, celle des régions d'Asie centrale. Avec vous, Chloé Drieux, bonjour.
Bonjour.
Historienne, chargée de recherche au CNRS. Attachée au CETOBAC, le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, membre également du comité de rédaction de la revue Central Eurasian Reader. Chloé Drieux, l'Empire russe, auquel appartient cette région d'Asie centrale turcophone à cette époque, que l'on appelle le Turkestan, entre en guerre, donc l'Empire russe, fin juillet 1914,
oui.
Et cette décision, avec la mobilisation générale, a des répercussions directes sur le Turkestan.
Oui, alors cette mobilisation générale a des répercussions directes, dans le sens où les populations centra-asiatiques vont participer dans un premier temps à l'effort de guerre, mais ne vont pas fournir de main-d'œuvre ni de soldats. Donc ils vont envoyer du coton, du bétail, du grain, ils vont faire également des dons en argent, mais donc cette participation jusqu'en 1916, jusqu'au mois de juillet 1916, se limite à une participation essentiellement en nature et pas encore en hommes.
En revanche, une partie de l'infrastructure administrative, si je puis dire, de ces régions-là, va être privée d'un certain nombre de ces cadres, puisque ceux-là vont être appelés.
Oui, puisque en fait, le Turkestan russe, donc cette région centra-asiatique, est une région de migration et de colonisation de peuplement, de sujets russes, qui eux vont être donc soumis au décret de conscription, au décret de mobilisation, et qui vont massivement quitter le territoire dès juillet-août, enfin fin juillet, début août 1914.
Alors rappelons que cette région-là, le Turkestan, s'étend sur un vaste territoire qui va de...
Alors qui va de la mer Caspienne à la Chine et du sud de la Russie à l'Afghanistan. Donc c'est une région faite majoritairement de populations turcophones. On trouve des populations persanophones également qui sont les Tadjiks actuels, populations musulmanes aussi essentiellement, de rites sunnites, hanéfites. À l'exception de certaines populations du Badakhchan, notamment, qui sont ismaéliens, donc chiites.
Alors, revenons sur cette hémorragie de cadres administratifs russes qui s'en vont. Est-ce que, du coup, ça désorganise le fonctionnement de ces régions?
Alors, ce ne sont pas tant des cadres administratifs, parce que les cadres administratifs restent en place. C'est une colonie militaire, donc il y a une grande partie de ces cadres administratifs qui sont des militaires, qui vont partir, mais la structure globale administrative reste en place. Ce sont surtout les colons de peuplement qui sont arrivés un petit peu en marge de cette structure administrative, qui sont arrivés depuis 1905. Alors cela fait suite à l'abolition du servage en Russie, les autorisations de peuplement des steppes notamment, et ces populations donc à la recherche de terres, donc des populations qui sont plutôt russes et ukrainiennes, se dirigent vers l'Asie centrale et vont commencer à coloniser des terres fertiles, à s'intéresser aux points d'eau et à déstructurer notamment les zones de pâturage des populations nomades et sédentaires. Et les nomades ne sont pas sédentaires par définition et donc ces colons ont l'impression que c'est un territoire totalement vide et susceptible d'être totalement colonisé, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Alors en 1916, tout change pour cette région, pourquoi ?
Alors tout change parce que l'Empire russe et le tsar et l'état-major prennent en considération les besoins militaires, les pertes importantes infligées par les armées européennes. Donc Nicolas II et son état-major vont décider de conscrire les populations centra-asiatiques musulmanes uniquement pour les travaux d'arrière et prennent donc ce décret de juillet 1916, le but étant de lever 250 000 hommes au début.
Alors les travaux d'arrière, c'est quoi ?
C'est des travaux de terrassement, de routes, de tranchées.
Il ne s'agit pas d'en faire des soldats.
Il ne s'agit pas d'en faire de soldats, ce qui pose parfois problème, parce qu'il y a des populations qui ont vraiment, enfin, à l'époque on parle de populations martiales, et qui estiment que un homme doit porter les armes, et que les travaux d'arrière sont dévalorisants pour ceux qui le font. Oui.
Alors, on voit bien qu'il y a cette décision de mobiliser toute cette région. Pourquoi la région ne marche pas dans la combine? Pourquoi est-ce qu'elle se rebelle?
Alors, elle se rebelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que le décret tombe à un très mauvais moment, qui est le moment donc de juillet et août, qui est pour l'Asie centrale le moment essentiel de préparation des travaux agricoles et notamment de la récolte du coton. Et donc les hommes qui sont susceptibles de partir dans les bataillons de travail s'interrogent sur la façon dont les récoltes pourront être menées à bien.
Alors est-ce que ces révoltes, elles se traduisent par quoi concrètement sur le terrain?
Alors sur le terrain, souvent c'est d'abord l'attaque de l'administration indigène et du grade inférieur de l'administration indigène qu'on appelle l'élikbashi, puisque c'est lui qui a entre ses mains les listes de conscrits, les listes nominales des appelés. Et donc c'est lui qui va cristalliser toutes ces tensions. Les hommes vont commencer à se rendre donc dans ce lieu administratif à la recherche de l'élikbashi, donc du chef de l'administration indigène, pour le tuer. Et donc les violences vont dégénérer ensuite à partir de ce meurtre-là. Et l'armée impériale va répondre aussi par des violences très importantes, répressives.
Alors qui se traduisent par beaucoup de morts?
Alors c'est toujours difficile à dire parce qu'il n'y a pas de comptage, notamment pour les populations indigènes. Les répressions les plus violentes vont avoir lieu dans les zones nomades. Et surtout dans les zones nomades va se constituer des milices d'autodéfense, mais qui sont aussi formées par des civils et par les colons qui sont restés. Donc souvent, les milices civiles d'autodéfense s'adonnent à une violence un petit peu plus exacerbée que des militaires qui sont encadrés par une certaine discipline, tout ça entre guillemets.
Alors, la révolte arabe en 1916, qui a eu lieu beaucoup plus bas dans la géographie, évidemment, elle avait été suscitée, aidée en tout cas par les troupes britanniques. Est-ce qu'il y a une intervention extérieure pour ces révoltes d'Asie centrale?
Alors, dans les archives, j'en ai pas trouvé trace. On mentionne donc des agents turcs de l'organisation spéciale, donc Teşkilat et Mahsusa. Il y a des prisonniers allemands aussi, parce qu'il faut savoir que l'Asie centrale est une zone de déportation, en tout cas de déplacement forcé de prisonniers de guerre, et notamment allemands. J'ai pas trouvé de traces vraiment de la participation de ces agents turcs ou prisonniers de guerre allemands dans l'organisation de révolte. Par contre, pour l'Iran et pour l'Afghanistan, les Allemands présents auraient été un peu plus actifs.
Alors, est-ce qu'on peut qualifier ces révoltes de révolutionnaires, un peu à l'instar de ce qui se passera à Moscou en 1917 et 18?
Je pense que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de renversement de gouvernement et que le renversement des structures d'État se fait suite aux révolutions d'abord de février puis d'octobre. Et donc les répercussions se sentent jusqu'en Asie centrale où s'effritent complètement les structures administratives impériales. Par contre, c'est vrai que les révoltes mettent à mal totalement ces structures sans les anéantir complètement. Et puis surtout, elles vont vraiment anéantir l'économie et le travail.
Alors comment se terminent-elles ces révoltes d'Asie centrale?
Alors c'est assez compliqué parce que c'est toujours la question que je me pose. On peut dire que pour les zones sédentaires, courant du mois de septembre, les révoltes sont terminées. Elles ont été entre guillemets pacifiées par l'armée russe.
1916 on parle.
Hein, 1916 là on parle. Et sont envoyés environ 123 000 hommes de ces régions majoritairement sédentaires pour les bataillons de travail. Donc il y a quand même une partie qui va finalement être mobilisée dans les bataillons de travail. Par contre, pour les populations nomades, c'est très très compliqué parce que justement il y a ces migrations vers la Chine, vers le Turkestan chinois, des volontés de retour. Ces populations qui fuient le décret de conscription perdent absolument tous leurs biens, tout leur bétail, y compris une grande partie de leur famille et de leurs enfants qui sont obligés d'abandonner ou de vendre. Et ces populations veulent rentrer. Mais évidemment, c'est très compliqué. On est en hiver. Et puis après, révolution russe, donc février, et puis surtout octobre. Et là, c'est quand même le chaos total. L'Asie centrale, enfin, l'ensemble de l'Empire russe, puis l'Asie centrale, sont plongés dans la guerre civile. Une guerre civile qui va durer assez tardivement.
Quelles traces reste-t-il aujourd'hui de ces révoltes de l'Asie centrale en 1916?
Alors, dans les années 30, plutôt, enfin je vais commencer par là, les révoltes de 1916 vont servir de base à une mythologie nationale, à la fois par les officiels soviétiques, mais aussi par les intellectuels locaux. Donc on oppose en gros deux lectures, une lecture en termes de lutte de libération nationale, qui sera encore portée par les historiographies nationales après 91, et puis une lutte de libération populaire, donc une lecture en termes de lutte des classes, puisqu'on va, enfin, et là c'est plutôt l'idéologie soviétique à plein, et stalinienne notamment, selon laquelle on interprète les révoltes comme une lutte des classes, une lutte des saisonniers, des travailleurs agricoles contre les colons et les structures impériales.
Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas, en réalité.
Je pense que la lecture en termes de lutte des classes est plus juste que celle en termes de lutte de libération populaire. Mais après les indépendances des pays centra-asiatiques, donc en 91, notamment en Ouzbékistan, on essaye de faire une lecture de lutte de prémisse de lutte de libération nationale, donc révolte de 1916, pour en quelque sorte dénier à la Russie la paternité révolutionnaire
de ces révoltes
et de l'indépendance.
Merci Chloé Drieux, historienne. Merci. Chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'Asie centrale.
Merci beaucoup.
Cinquième et dernier volet de notre série sur les communautés étrangères d'Égypte. Aujourd'hui, les Italiens. Un sujet qui vous est cher, Alexandre, ou dois-je dire Alessandro Buccianti?
Oui, Sandro pour les amis, en chantant. En fait, la présence italienne, et plus précisément la présence romaine, remonte au Ptolémée et à la plus célèbre d'entre eux, Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte, qui a failli d'ailleurs conquérir Rome à travers le cœur de Jules César puis de Marc-Antoine. Une histoire qui a fini en drame en 30 avant Jésus-Christ qui a fait de l'Égypte une province romaine jusqu'en 476, c'est-à-dire la date de la chute de l'Empire d'Occident. Alors les Italiens réapparaissent au Moyen-Âge avec notamment les Génois et les Vénitiens. C'était l'époque où l'Égypte était une des routes de la soie et des épices, et puis, par subterfuge, des marchands vénitiens ont emporté les reliques de Saint Marc, qui est le fondateur de l'église d'Alexandrie, et les ont mis dans ce qui est devenu la cathédrale de Saint Marc à Venise.
Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière avec les Soudanais, c'est sous Mehmet Ali, au début du XIXe siècle, que les Italiens s'établissent durablement en Égypte.
Oui, ce militaire ottoman, qui était d'origine albanaise, prend le pouvoir en Égypte. Il avait besoin d'experts pour moderniser le pays. Et donc, les Italiens, du noble à l'artisan, sont les premiers qui sont engagés. Alors, ils participent notamment à la construction de l'arsenal, de plusieurs barrages sur le Nil et à la première poste d'Égypte. La poste s'appelle d'ailleurs toujours Bosta, de posta en italien. Les Italiens arrivent ensuite vague après vague, de la Vénétie au nord à la Sicile au sud. Beaucoup fuient l'Italie qui est pauvre pour une Égypte qui est prospère. Alors on trouve leurs traces partout en Égypte, mais surtout à Alexandrie, où ils sont les grands architectes de la ville moderne. Et les plus belles mosquées, par exemple, du XXe siècle, sont construites par l'architecte Mario Rossi, et notamment des mosquées devenues célèbres grâce au soulèvement contre Hosni Moubarak, Al-Qaïd Ibrahim à Alexandrie, et Omar Makram, place Tahrir au Caire. Et il faut aussi rappeler qu'en 1915, beaucoup d'Italiens d'Égypte sont partis la fleur au fusil défendre la mère patrie qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, et mon père en faisait partie.
Alexandre, où en est la communauté italienne aujourd'hui, elle qui frisait les 50 000 âmes dans les années 20?
4000 Italiens à peine, dont seulement 300 de souche. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a décimé la communauté. Tous les Italiens qui étaient en âge de se battre ont en effet été internés en 1939 sur ordre de l'occupant anglais. Et lors de leur libération en 1945, ils étaient pour la plupart ruinés ou devenus chômeurs. Donc déchirés, la plupart repartent vers une Italie qu'ils n'ont jamais connue. Et puis certains finissent en France, par exemple comme la célèbre Dalida. Et d'autres restent encore des fous d'Égypte dont j'ai le bonheur de faire partie.
Les Italiens, cinquième et dernier volet de notre série estivale sur les communautés étrangères d'Égypte. Merci Sandro Buccianti.
על חתכים עמוקים שאילולי היו פה אולי גם אני לא הייתי שם בתחנה ומחכה.
Après le Caire, nous nous rendons à Jérusalem pour retrouver Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Eric.
Cette semaine, vous nous parlez des chemins de fer en Israël et plus particulièrement de la ligne Tel Aviv-Jérusalem, ce qui nécessite, Michel, de faire un brin d'histoire.
Eric, il aura fallu un peu plus d'un an pour construire la ligne de chemin de fer entre Jérusalem et Tel Aviv. Mais c'était en 1890, un train à voie étroite, la ligne JJ, Jaffa-Jérusalem, probablement le premier chemin de fer du Proche-Orient, un projet grandiose, rêvé un demi-siècle plus tôt par le philanthrope Sir Moses Montefiore, mais c'est finalement le français Bernard Camille Calas qui réalisa la majeure partie des travaux par le biais d'une compagnie nouvellement créée, la Société du chemin de fer ottoman de Jaffa à Jérusalem et prolongement. Les fonds levés provenaient pour plus de la moitié de religieux chrétiens. Les ingénieurs, eux, venaient de Suisse, de Pologne, d'Italie et d'Autriche, et les ouvriers, principalement d'Égypte, du Soudan, d'Algérie et, en plus petit nombre, de Palestine. Par la suite, toujours sous l'Empire ottoman, de nombreuses autres lignes furent ajoutées vers Beyrouth et vers la Syrie, reliant le réseau à la célèbre voie ferroviaire du Héjaz, de Damas jusqu'à Médina. Une grande aventure qui prit fin le 1er novembre 1945 avec la nuit des trains, qui aboutit à la destruction de 153 sites le long des voies.
Une ligne qui a rapidement périclité après la création de l'État hébreu.
La suite a été moins glorieuse. La compagnie des chemins de fer israéliens a repris la ligne en 1950. Plus de 3 heures pour rejoindre Jérusalem à partir de Tel Aviv, devenu l'objet de plaisanteries et supplanté par des services d'autobus et de taxis collectifs, la ligne fut totalement abandonnée. Et début 2000, un nouveau train a commencé à relier les deux grandes villes en un peu plus d'une heure, mais les nombreux virages sur le tronçon qui emprunte les monts de Judée ont finalement provoqué l'usure des bogies et le train est devenu un tortillard.
De sorte qu'il y a, Michel, une nouvelle ligne en construction.
Et c'est le nouveau projet, Tel Aviv-Jérusalem en 22 minutes avec un arrêt à l'aéroport international Ben Gurion, un TGV à l'israélienne, grande vitesse mais pas pour les travaux, Eric. Le coup d'envoi a été donné en 2001 et à l'heure actuelle le projet qui comprend nombre d'ouvrages d'art, ponts et tunnels et une gigantesque gare souterraine à Jérusalem doit en principe être inauguré en 2017. 16 ans, rappelez-vous Eric, en combien de temps a été construite la voie ferrée entre les deux villes ? En 1890. Alors il y a de nombreux problèmes liés à la construction de cette ligne, des questions de financement et des imbroglio administratifs et même archéologiques, mais bien sûr, autre controverse aussi, 6 km de la voie ferrée passent en territoire palestinien occupé par Israël.
Compte tenu de la situation conflictuelle actuelle, ce n'est en effet pas terrible. Cela n'empêche pas, Michel, qu'il y ait un autre grand projet, en tout cas sur le papier.
En février 2012, le gouvernement israélien a approuvé un autre projet d'importance stratégique, celui-là, un chemin de fer entre Beersheba et la ville portuaire d'Eilat. Cela permettrait de concurrencer le canal de Suez pour le transport de marchandises entre la Méditerranée et la mer Rouge. Une société chinoise a été retenue pour la construction de la ligne qui traversera les déserts du Negev et de la Arava. Durée prévue des travaux, 5 ans.
5 ans, si tout va bien. Merci Michel. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.